Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Que faut-il faire pour revoir à la hausse les prix des ventes des crédits carbone? Nous débattons de ce sujet avec le professeur Jean-Robert Boingoy. Il est administrateur général de Era Congo and Life Work Carbone, une entreprise spécialisée dans la monétisation des crédits carbone dans les Maïndombé. Professeur, bonjour.
Bonjour, ce journaliste.
Merci d'avoir répondu à l'invitation des Radio Capi, d'Okapi Service spécialement. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Appelez-nous, nous allons vous rappeler dans le déroulement de l'émission pour prendre la parole en direct. Par SMS, envoyez-nous vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous attendons également vos commentaires dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ces numéros sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Marcel Gombo coordonne et réalise ces numéros et Mimi Kindou s'occupe de la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute du magazine Okapi Service.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien de Radio Okapi. Le gouvernement de la RDC a fait les plaidoyers visant l'augmentation du prix des ventes des crédits carbone lors de la dernière édition de la conférence des parties sur le climat qui a eu lieu en Égypte l'année dernière. Au cours de ces assises sur le climat, le ministère de l'Environnement a annoncé que la protection des forêts du bassin du Congo nécessitera un prix de 100 dollars par tonne pour les compensations au lieu du prix actuel vendu à environ 5 dollars par tonne. Un plaidoyer qui n'a pas encore abouti car les marchés de la monétisation de crédit carbone demeurent encore verrouillés sur les marchés internationaux selon nos sources. Que faut-il faire pour revoir à la hausse les prix des ventes du crédit carbone? À quoi sert l'argent issu de la vente des crédits carbone? Quelles sont les réalisations de Era Congo dans les Maïndombé grâce à la vente des crédits carbone? Nous débattons donc, vous aurez les éléments de réponse au cours de ce numéro d'Okapi Service. Nous en parlons avec le professeur Jean-Robert Boingoy. Nous rappelons qu'il est administrateur général de Era Congo. Professeur, merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Okapi. Dites-nous, on va commencer par les tout débits. C'est quoi les concept crédit carbone?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les crédits carbone, disons que dans le sens de la monétisation, proviennent de... il faut voir plutôt le mécanisme qu'on appelle RED+, c'est-à-dire le mécanisme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Mmh. Alors, c'est quoi en fait le problème, le concept? C'est que les arbres ont accumulé, les arbres accumulent un certain nombre de carbone. Mmh. Hein, donc, puisque l'arbre absorbe le carbone de l'atmosphère et il dégage l'oxygène. En absorbant le carbone de l'atmosphère, il fabrique le sucre qui le fait grossir. Et au fil des ans, il a accumulé un certain nombre de carbone. Et ce carbone accumulé peut repartir dans l'atmosphère si on détruit la forêt. Donc, dès que vous coupez l'arbre, l'arbre pourri, il émet encore le carbone dans l'atmosphère. Et s'il émet le carbone dans l'atmosphère, donc ça contribue à une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre, comme vous savez, contribuent à l'augmentation de la température et donc au changement climatique. C'est pour cette raison que pour essayer de réduire la concentration des gaz à effet de serre et la température, donc on essaye de voir ce mécanisme-là, d'empêcher que l'arbre puisse être détruit et qu'il puisse émettre dans l'atmosphère. C'est ça vraiment le concept de la de crédit carbone. Alors comment on le fait? Chacun peut dire que voilà, moi j'ai une forêt, moi je vois beaucoup de gens qui viennent me voir pour dire que oui, j'ai une forêt derrière ma maison, il y a des arbres, tout ça. Bon, chacun peut avoir son propre concept et imaginer sa propre quantité de CO2 accumulée dans sa forêt, vous voyez. Maintenant, il faut qu'on puisse avoir une manière de quantifier tout cela à travers des inventaires et tout, et la probabilité, la probabilité qu'une quantité aurait pu être émise dans l'atmosphère, mais elle n'est pas détruite. Cette forêt n'est pas détruite. C'est ça, cette proportion qu'on a conservée, qui contribue au crédit carbone. Le deuxième concept, c'est celui évidemment du reboisement, où vous avez un espace qui n'est pas boisé. Vous commencez à
dans
à
une planter. Savane comme au plateau de Bateke par exemple.
Oui, vous plantez des arbres comme au plateau de Bateke. On avait planté 8000 hectares à Mampou.
Oui.
Donc ces 8000 hectares là, ce sont des arbres qui ont accumulé aussi du carbone. Et vous pouvez maintenant dire que voilà, ici il n'y avait rien. Nous avons contribué à pouvoir soustraire un certain nombre de tonnes de CO2 de l'atmosphère. Donc nous pouvons bénéficier d'un paiement. Hein? Et donc, c'est comme ça. On essaie de dire que, bon, nous avons des forêts, et il faut que nous soyons rémunérés. C'est ça le concept. C'est ce que Madame le ministre a essayé de dire. Donc, nous avons la forêt, et elle rend service à l'humanité tout entière. Il faut que des gens qui polluent puissent compenser ce que nous protégeons chez nous.
Vous êtes administrateur général de Era Congo. Parlez-nous un peu de l'expérience de Era Congo qui est dans ces processus de paiement, de monétisation, en fait, de la vente des crédits carbone. À quand remonte l'expérience et à quelle étape vous êtes aujourd'hui? Comment ça a évolué, les difficultés rencontrées et le paiement a commencé exactement quand?
Bon, disons que nous avons créé cette société, donc c'est moi-même et un de mes collègues de classe qui avons créé cette société en 2009. Et nous sommes venus ici en RDC, nous avons discuté avec le gouvernement et nous avons pu avoir une concession de 300 000 hectares dans la rive droite du lac Maïndombe. Et nous avons travaillé avec les communautés pour protéger la forêt. Au lieu de la détruire, nous avons dit que essayons de donner une valeur à un arbre debout plutôt que de donner une valeur à un arbre abattu. Mmh. Vous voyez, d'habitude, c'est un arbre abattu qui a de la valeur parce que on va scier, on va vendre le bois, Mais maintenant, c'est différent. Nous donnons de la valeur à un arbre debout. Vous voyez? Et donc, nous sommes sur ces 300 000 hectares, de forêt dans le Maïndombe. On a eu énormément de difficultés. Nous avons d'abord eu nos premiers crédits carbone en 2012, exactement en décembre 2012. Nous avons été, validés et vérifiés par des standards internationaux. Le VERA et le standard de communauté et du climat et de la biodiversité. Donc ces standards-là ont vérifié les résultats de nos inventaires, nos activités sur le terrain, et ils ont estimé que voilà, nous pouvons avoir autant de millions de tonnes de CO2 que nous avons mis sur le marché. Déjà en ce moment-là, puisqu'il n'y a pas, vous avez vu que nous sommes allés en Égypte. Il n'y a jamais eu consensus. Mmh. Personne ne veut payer. Parce que si on va payer sur des milliards de tonnes de crédit carbone en République démocratique du Congo, comme le président veut à $100 la tonne, ben il y a des milliards et des milliards de tonnes ici de stock de carbone en République démocratique du Congo. Donc il n'y a personne qui est prêt à assumer un tel coût. Donc, on n'a pas eu des acheteurs depuis 2011. Nous avions d'abord un acheteur allemand qui avait initialement financé le projet et qui a acheté pendant 2 ans. Après,
à un coût relativement bas.
Oui, nous vendions à $2 la tonne. Hein. Vous parlez de $100, mais à ce moment-là, on vendait à $2 la tonne. Et là, après, nous avons tant bien que mal survécu hein, pendant des années. En 2014, d'ailleurs, on n'avait aucune vente. Jusqu'à ce que on s'était décidé d'aller prendre un prêt garanti à terme par le Crédit Carbone auprès d'une grande entreprise mondiale. Donc, ils nous ont donné ce prêt-là. C'est ce qui nous a permis de fonctionner jusqu'en 2021, lorsque vraiment il y a eu des sociétés privées internationales qui se sont intéressées à l'achat vraiment véritablement de Crédit Carbone. Et maintenant, nous vendons à des grandes sociétés, notamment Delta Airlines, qui est la première compagnie d'aviation mondiale. Elle achète partout, mais elle a acheté quand même beaucoup de crédits de main d'homme pendant 2 ans. Voilà, c'est là où nous sommes.
Ah d'accord, mais est-ce que les communautés locales comprennent les concepts? Est-ce qu'elles adhèrent facilement?
Oui, je crois que pour le moment, nous avons travaillé avec les communautés depuis 2011. Je veux seulement essayer de vous faire rigoler. Vous avez su vous-même une dame qui s'exclamait en disant, mais, hein, bon, mon pépé en Zambie, vas-y, retenez comme mon pépé en Zambie. Tu vois, ils comprennent le concept que, voilà, c'est l'accumulation de ce CO2 hein, dans l'arbre qu'on essaie d'éviter que ce CO2 là puisse repartir dans l'atmosphère et on protège les arbres et c'est comme ça que ils peuvent avoir une rémunération. Vous savez que notre plan de partage de bénéfices est très très favorable pour les communautés locales et jusque là aussi très favorable pour le gouvernement provincial. Donc nous sommes plus la dernière province de la République en termes
de recettes.
Voilà, grâce à ce travail que nous avons bon gré mal gré abattu pendant plus d'une dizaine d'années.
Oui, professeur, dans cette émission, nous donnons également la parole à la population. Donc, on va aller au standard cette fois-ci pour donner la parole aux auditeurs. Ils sont nombreux et à appeler au standard. Que faut-il faire hein, pour revoir à la hausse les prix des ventes des crédits carbone en RDC? Nous en parlons avec le professeur Jean-Claude Boingoy, il est administrateur général de ERA Congo. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94 par SMS. Et nous attendons vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel dénommé service@radiokapi.net.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Ingénieur John, vous nous appelez depuis la ville de Kindu dans les Maniema, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour, bonjour Tati, c'est Tati qui est là.
Exactement, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour. Très bien, merci. Bonjour au professeur, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment.
Nous vous écoutons.
Merci. Alors, la question qui se pose au niveau du prix carbone n'a pas encore trouvé les arguments visibles auprès des pollueurs. Le délégué de la RDC au Fora et au COP et autres rencontres qui traitent des questions environnementales, impliquant les pays pollueurs, producteurs de grandes quantités de gaz à effet de serre, saute très rapidement à la conclusion selon laquelle RDC pays solution, sans argumenter suffisamment sur les paramètres de l'équation paramétrique de notre pays est solution. Les arguments que je désire entendre sont ceux confinés dans le travail de Mme Esther Lali Achabani, qui a porté sur contribution de la société civile environnementale du Maniema dans la lutte contre le réchauffement planétaire. Au niveau de sa problématique présentée en entonnoir, quelques arguments sont les suivants. Londres, ville noire, pourquoi? C'est à cause des fumées des usines. Pollution de l'air en Chine, où il y a des jours où vous ne pouvez pas respirer. Nous connaissons bien sûr que suite à la circulation générale atmosphérique, cette fumée-là produite en Chine va nous arriver chez nous, mais pas avec la même amplitude, pas avec la même intensité, pas avec la même fréquence. Le dégel de la ville de Murtok en Groenland.
Oui, ingénieur Jorn, s'il vous plaît, oui. S'il vous plaît, allez droit au but. Oui. Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
C'est ça justement.
Oui, on va gagner le temps, s'il vous plaît, vous n'êtes pas le seul à appeler. Oui, allez-y, je dis ceci, s'il vous plaît. Allez droit au but, vous n'êtes pas le seul auditeur au standard, allez droit au but. Quelle est la question que vous voulez poser à l'invité?
Ça justement, voilà, la question que je pose, c'est que la France, par exemple, qui connaît une canicule, le village des Esquimaux, le village Esquimaux de Chichmarès, qui est en train de disparaître à cause de gel de
la fonte des neiges
de l'océan glaciaire à Antarctique. Mais est-ce que ces gens-là ne peuvent pas comprendre que ce n'est pas seulement le Congo qui est en danger, c'est le monde entier qui subit les effets de leur turpitude, mais que le Congo va venir apporter la solution?
Merci beaucoup, ingénieur John. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kindu que vous intervenez. Cette fois-ci, allons à Lubumbashi pour donner la parole à Monsieur Patient, à qui on dit bonjour. Monsieur Patient, vous êtes en ligne. Malheureusement, la liaison nous a trahis, donc on va tenter de relancer Patient de Lubumbashi. Cette fois-ci, retournons à Kinshasa pour donner la parole à Gaston, à qui nous disons bonjour.
Bonjour.
À vous la parole, allez-y. On vous écoute.
D'accord. J'aimerais un peu avoir une idée sur les forêts, parce qu'il y a des particuliers qui aménagent l'espace, qui sont concessionnaires, où ils plantent des arbres, et puis il y a les espaces naturels qui reviennent aujourd'hui à l'État congolais, peut-être aussi certaines communautés locales qui s'approprient ces espaces-là. Quelle est la marge qui est réservée à ces gens-là, qui sont propriétaires de ces sites-là qui produisent les crédits carbone, et comment c'est leur rémunération, en quelle sorte les rémunérations dividendes sont évaluées sur le plan de la République démocratique du Congo. Et puis, il y a d'un autre côté les polières, si je peux qualifier, les gens qui viennent, qui coupent, qui ne protègent pas les arbres qui doivent produire ce carbone, mais qui coupent les arbres, au sens qu'ils profitent des arbres déjà coupés. Mais il y a aussi des polières de l'atmosphère, comme on peut le dire ici par les faits que vous connaissez. Quelle est la part de responsabilité des gens-là? À quel niveau ces gens-là contribuent dans la rémunération de ceux qui sauvegardent d'une façon ou d'une autre l'atmosphère avec l'air carbone? Voilà un peu les éclaircissements que je voulais avoir, parce que je constate aussi que l'État congolais, en tant que propriétaire du sol et du sous-sol, ne fait pas bénéficier à l'État congolais ce que nous devrions normalement avoir par le fait que nous détenons aujourd'hui des zones, si vous n'avez aucune idée, mais des zones qui sont conservateurs de ce carbone-là et qui alimentent aujourd'hui le monde.
Oui, mais maître Gaston, s'il vous plaît, l'État devrait faire quoi exactement, d'après vous?
Non, il y a déjà des manœuvres sur le plan international. On devrait normalement nous payer par le fait que nous détenons ces forêts-là sur notre territoire. Hein. Mais je voulais aussi avoir une idée à quel niveau nous sommes sur ce plan-là, parce que normalement, la communauté internationale, à travers les structures, les organisations qui existent, devrait nous récompenser, parce que nous sommes une zone qui regorge et qui, en quelque sorte, alimente le monde par le fait que nous avons des forêts, nous avons des bois, des arbres par-ci, par-là, qui alimentent ces produits-là à l'humanité. Comment nous ne sommes pas rémunérés jusque-là et prétendre aujourd'hui que quelque chose, je ne sais pas, la structure qui est l'invité est en train de nous présenter, à quoi sert cette structure dans le sens de pouvoir faire gagner à ceux qui détiennent les forêts, qui détiennent, et surtout l'État congolais qui est le détenteur de cette grande forêt, ce grand espace congolais, en tant que propriétaire du sol et du sous-sol, qui devrait normalement gagner et puis investir cela dans des projets à caractère communautaire, local, où les populations devraient se retrouver, par le fait que nous sommes d'abord détenteurs de... Mais je voudrais aussi avoir une idée, parce que moi, je suis aussi en quelque sorte détenteur d'une grande forêt dans ma communauté là-bas. Hein,
à l'intérieur, là-bas, vers Kassai, là-bas. Dans les Kassai.
Nous avons des grandes forêts, je ne vous mens pas, à quelques mètres de nous. Mais ces forêts-là ne servent à rien, je vois à peine découper des grimes, il y a des arbres qui tombent comme ça parce qu'ils vieillissent. Il y a vraiment, qu'est-ce que nous pouvons gagner, nous qui sommes en chasseur ici, mais qui pensons qu'il y a une grande richesse là-bas qui alimente le monde. Comment nous pouvons être répertoriés et puis en bénéficier d'une manière ou d'une autre, même si on ne coupe pas des arbres, même pour faire quoi à l'agriculture là-bas, mais au moins par le fait que nos forêts sont... Parce que nous sommes détenteurs de ces forêts.
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a compris l'essentiel de vos préoccupations. L'invité aura le temps de répondre à tes questions, Gaston. Maître Gaston, nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. On me signale que patient Lumbashi est de nouveau en ligne. Patient, bonjour. La liaison nous a encore trahis. Professeur, comment répondez-vous à ingénieur John de Kindu qui dit que les pays pollueurs tels que la France, les États-Unis ne devraient même pas discuter concernant le paiement des crédits carbone?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci à l'ingénieur John de Kindu, que je salue à Kindu. Je peux vous dire ceci. Donc, toute la bataille qu'on fait dans chaque conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, hein, toute la problématique est là. Donc, les pays pollueurs ne veulent pas. Il faut le dire, il faut être clair. Les pays pollueurs ne veulent pas payer. Parce que nous avons une structure économique qui dépend essentiellement des combustibles fossiles. Et nous tous, moi, je suis venu ici, j'avais mon véhicule. Donc, nous tous, nous dégageons un peu du CO2 qui va dans l'atmosphère. Et nous devrions être conscients de cette situation et être conscients de notre responsabilité en tant que destructeurs du climat mondial. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de... nous sommes au mois de février, c'est la saison sèche, n'est-ce pas?
Oui.
Il a plu hier à Kinshasa.
Oui. Oui.
Il pleut dans toute la République. Le fleuve est gonflé. Lorsque le président a parlé des effets néfastes de changements climatiques, il y en a qui avaient contesté. En tant que spécialiste, je ne m'aurais pas confirmé, mais je dis ceci. Nous avons un phénomène qui s'appelle la Niña, qui s'est répété pendant 3 années successives.
C'est pour dire qu'il y a un dérèglement.
En principe, ce phénomène-là se répète tous les 10 ans. Mais aujourd'hui, il est là depuis 3 ans. Il ne quitte pas. Hein? Donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que nous ne comprenons pas encore, mais il y a quelque chose qui se passe. Et pour répondre à l'ingénieur John et aussi à maître
Gaston de Kinshasa, Gaston,
c'est il faut dire que la concentration des gaz à effet de serre s'égalise dans le monde après 10 jours. Ça voudrait dire que la pollution qui vient de la Chine, suivant le principe chimique de migration de la solution la plus concentrée vers la solution la moins concentrée. Donc, la concentration des gaz à effet de serre va migrer vers nous ici vers
dans les 10 jours qui suivent.
Dans les jours qui suivent, dans les 10 jours qui suivent, il y a une égalisation de la concentration des gaz à effet de serre. Donc, même si nous ne voyons pas, il y a une augmentation de la concentration de CO2 ici chez nous. Aujourd'hui, par rapport à hier, et hier par rapport à il y a 2 semaines. Vous voyez? Donc, c'est un phénomène qui est important pour lequel on doit prendre conscience. Et il y a des téléconnexions. Le phénomène La Niña qui s'éternise aujourd'hui, il se passe dans le Pacifique. Il se passe pas ici chez nous, il se passe dans l'océan Pacifique. Et ce phénomène qui se passe dans l'océan Pacifique a des conséquences ici chez nous. Vous voyez? Et des pluies torrentielles, des érosions et tout ça. Maintenant, il faudrait qu'on puisse prendre conscience, mais lorsqu'on va dans les réunions, tout le monde est à la défensive. Donc, les pollueurs sont à la défensive. L'Union européenne, il faut les citer, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, l'Inde, qui sont les plus grands pollueurs, ils sont là, ils sont à la défensive. Ils ne veulent pas céder. Nous sommes dans un modèle économique. Ils estiment que si on change de modèle économique aujourd'hui, il y aura des conséquences encore plus néfastes au niveau des marchés, au niveau de la vie, du train de vie qu'on a développé jusque-là.
Et même nous tous. Au niveau des services.
Exactement. Donc, mais il faut que nous soyons conscients du fait que si nous augmentons la concentration des gaz à effet de serre, nous n'avons pas un plan B. Si on fait un crash de la planète, nous n'avons pas une autre planète dans laquelle on va partir.
Oui.
Il faudra qu'on soit conscient. On a parlé de limiter l'augmentation des gaz à effet de serre en dessous de 2 degrés Celsius. On n'est même pas capable. Ça dit qu'il y aura une augmentation, mais qu'on limite à en dessous de 2 degrés Celsius. Mais là, on n'est même pas en train de se mettre d'accord pour qu'il n'y ait qu'une augmentation inférieure à 2 degrés Celsius.
Professeur, Maître Gaston voulait savoir comment s'est fait l'évaluation de ces marchés de crédit carbone. On évalue sur base de quoi? L'évaluation, l'inventaire, au fait.
Oui, bon, Maître Gaston, je veux dire ce que j'ai dit au départ, c'est qu'il y a deux façons de faire. D'abord, dans le mécanisme qui nous intéresse, RED+, bon, vous pouvez aller en forêt et vous analysez le stock global, vous faites un inventaire et vous évaluez le stock global de carbone. Et ce stock-là, vous analysez maintenant la probabilité que une partie de ce stock puisse avoir été détruit en une année et pour contribuer à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ça, c'est le crédit carbone forestier qu'on fait d'une manière générale. Et vous savez que, bon, officiellement, on parle de 155 millions d'hectares de forêt pour la République démocratique du Congo. Mes études montrent plutôt autour de 130 millions d'hectares. Ça, ce sont des estimations scientifiques. Mais il y a aussi le reboisement qui peut amener à une accumulation de gaz à effet de CO2 dans les arbres reboisés et pour lesquels on peut gagner des crédits carbone.
Et il a dit, ils ont une grande forêt dans les Kasaï, sa famille a une grande forêt dans les Kasaï. Qu'est-ce qu'il doit faire pour bénéficier également des paiements des crédits carbone?
Bon, disons que nous sommes dans le marché volontaire. Vous voyez, nous sommes dans le marché volontaire. Il y a plusieurs mécanismes. Il y a des mécanismes de rémunération pour les services environnementaux. Donc, vous protégez la forêt, vous pouvez avoir une rémunération. Là, il y a ici par exemple, il y a le Fonared qui est là, qui va commencer son programme. Je ne sais pas dans quelle mesure le Fonared peut aller avec des programmes jusqu'au niveau des villages. Mais généralement, nous, ce qu'on fait, c'est dans le marché volontaire, c'est-à-dire entre privés, entre sociétés privées. Nous disons que voilà, nous avons autant d'hectares de forêt que nous avons protégés. Et la valeur est de tonnes de tonnes de CO2. Et nous allons voir un pollueur, hein, par exemple Shell ou Chevron ou n'importe quel pollueur. Et on va lui dire, écoute, nous protégeons une forêt en République démocratique du Congo et vous faites des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous n'êtes pas intéressé à acheter nos crédits carbone en échange, hein, en compensation de vos émissions? Nous avons, comme je vous ai dit ici, nous avons réussi à vendre à Delta Airlines, qui est la première compagnie aérienne mondiale. Donc, nous avons aussi réussi à vendre à des sociétés comme Shell et d'autres grandes sociétés dans le monde. Donc, ils achètent et nous avons ce qu'on appelle un plan de partage de bénéfices pour répondre justement à sa question.
Oui.
En ce qui concerne les gens qui...
Oui, professeur, avant de faire allusion aux activités alternatives développées dans la région de Maïndomé, nous retournons au standard, donner la parole aux auditeurs et puis nous allons revenir et puis on va évoluer. Que faut-il faire, hein, pour revoir à la hausse les prix des ventes des crédits carbone? Nous en parlons dans ce numéro d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-6394. Par SMS, vos questions sont bienvenues au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous donner la parole, de nous envoyer vos questions par le courriel dénommé service@radiocapi.net. Et professeur, on était en train de parler des activités alternatives que vous développez en faveur de communautés locales. Ok, on va donner la parole à Malonga. Malonga qui est à Bandundu. Malonga, bonjour. Malonga, malheureusement. Allô Malonga, est-ce que vous êtes là? Vous nous écoutez? Malheureusement, la liaison est rompue avec Bandunduville. On va tenter de relancer M. Malonga. Est-ce qu'on peut avoir une idée cette fois-ci des activités alternatives que vous développez grâce à l'argent généré par les crédits carbone?
Oui, d'abord, il faut dire que nous, notre ami disait, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Donc, nous signons un contrat avec le gouvernement. Et dans ce contrat-là, nous portons aussi la part des communautés locales. Donc, les communautés locales reçoivent 25% de nos ventes. Mmh. Et sur les 25% de nos ventes, nous allons maintenant cibler les activités qui contribuent à la protection de l'environnement. Lesquelles, on peut citer l'intensification agricole, la production, disons, le fish farming, hein, la construction des étangs piscicoles en faveur des communautés et là l'intensification agricole particulièrement a un effet direct sur les moteurs de la déforestation. Donc au lieu qu'on puisse utiliser les vieilles variétés de manioc qui ne produisent pas, nous amenons des variétés nouvelles qui sont développées par nos institutions nationales, qui ont été développées par l'INERA. Et là, vous voyez, il y a une augmentation de la productivité de 6 à 10 fois. Donc, il y a des variétés qui permettent de produire 10 fois plus que les variétés ordinaires.
Ce sont des réalisations que vous faites, que vous imposez aux communautés, ou c'est sur base d'une discussion et puis vous dégagez des options concernant les projets à réaliser sur le terrain.
Nous avons fait un peu ce qu'on appelle un peu notre pédagogie, c'est-à-dire que nous n'avons même pas dit aux communautés que nous avons des variétés nouvelles. Nous avons commencé par faire des champs de démonstration. Dans les champs de démonstration, on met ces variétés-là. Et l'idée, c'était de voir combien la production va être augmentée. Et lors de la récolte, on appelle les gens pour qu'ils viennent voir.
Oui, je reviens vers vous. On va donner la parole à l'auditeur qui est retourné. Monsieur Malonga, vous êtes là?
Oui, je suis ici, Kitati. Bonjour.
Bonjour, bienvenue dans Capi Service. À vous la parole, allez-y.
Ok, merci beaucoup. Je félicite puisque nous sommes dans notre domaine. Pour rehausser en tout cas ce crédit carbone, il faut ce que notre invité vient de dire là-bas. Il faut vraiment développer ces activités telles que le RED Plus, le parc à bois, le reboisement, effectivement, puisque ce sont ces activités qui font à ce que l'oxygène augmente et surtout ce crédit-là soit avantagé dans l'atmosphère.
Mais comment on peut les augmenter? En tout cas, invité a très bien expliqué. Le gouvernement doit s'en charger au service propriétaire, le ministère de l'Environnement. Vous voyez, le ministère de l'Environnement, c'est un secteur transversal. Il faut intéresser tout le monde qui a tantôt son activité. Vous voyez, les ONG vraiment bas record au monde, viennent même s'exprimer, les services d'État. Hein, raison pour laquelle tout le monde qui se trouvait dans le service d'État se transfère, se jette dans ce service-là privé pour bénéficier des avantages. Alors, ce sont ces services-là qui doit être beaucoup financés pour aider l'entité à ouvrir, c'est-à-dire des sites de reboisement, puisqu'en réalité, dans notre pays, il y a manque de sites de reboisement. Ces sites-là existaient, mais aujourd'hui, ces sites sont transformés au lieu qu'on plante les arbres, mais il y a d'autres choses qu'on fait là. Alors, le gouvernement doit veiller sur ce contrôle de ces zones G pour que ça aide les services étatiques à compléter son devoir.
Oui, Monsieur Malonga, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une préoccupation particulière à l'endroit de l'invité, par rapport au sujet que nous sommes en train de débattre?
Bon, l'occupation particulière.
Une préoccupation particulière, une question particulière à poser à l'invité.
Bon, ma question peut venir surtout sur crédit carbone. Je crois que mes prédécesseurs ont posé ça. Ici, il y a surtout nous des provinces. Mm. Nous, il y a le ministère et les coordinations de l'environnement et du développement durable. Mmh. Bon, comment calculer ces crédits? Il n'y a pas des appareils quelconques. Même les agents de l'environnement qui sont là, ils ne sont comment on peut calculer ces crédits-là? Comment on peut savoir qu'il y a autant de tonnes, autant de ça, ceci, c'est ça? Mais si il y a vraiment des spécialistes dans cette matière, vous verrez que ces taux-là et ce dont nous parlons, ça peut être facile à régler et à suivre et à les gérer comme il faut. C'est la raison pour laquelle l'invité, s'il est là, est-ce qu'il peut y avoir vraiment une possibilité d'attribuer ce service à chaque province pour maîtriser ces calculs, de savoir combien de tonnes, combien de kilogrammes, combien de quantités de carbone qui sont déquestrées dans la République démocratique du Congo, particulièrement par chaque province.
Merci beaucoup, M. Malonga. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bandundu que vous intervenez. L'invité aura le temps de répondre à votre préoccupation, mais vous étiez en train de parler d'abord des activités alternatives développées en faveur des communautés qui vivent autour, aux environs, au fait, de la concession des Era Congo. Allez-y, professeur.
Oui, le grand problème, justement, c'est le grand problème, c'est celui des financements. Donc, on parle il faut qu'on soit clair. Le problème, c'est celui des financements. L'auditeur de tout à l'heure a parlé un peu de ce problème-là. Comment faire pour attirer les financements? Comment il y a des ONG, il y a des gens partout qui ont intérêt, qui veulent reboiser, qui veulent travailler dans la conservation, mais le problème, c'est un problème de financement. Déjà, le problème au niveau des communautés locales, le problème de la destruction de forêts, le plus grand ennemi de la forêt, c'est la pauvreté.
Oui.
Donc, lorsque les gens sont pauvres, ils trouvent un moyen, ils doivent aller dans la forêt parce que c'est la forêt qui est pourvoyeuse des ressources. Maintenant, si on peut trouver des ressources autrement, on peut alléger un peu le poids
de la pression exercée sur la forêt.
C'est comme ça que nous venons avec toutes ces activités alternatives. Donc, l'intensification agricole, c'est d'abord la clé, l'intensification agricole, les d'autres activités alternatives comme la production
animalière,
la production animalière et tout ça. Tout ça pourra faire en sorte que la population va se tourner vers ces activités-là qui sont des activités vraiment porteuses de développement. Vous comprenez? Ces gens-là ne vont pas. C'est trop difficile de faire la chasse. Mmh. C'est beaucoup plus facile d'élever des porcs.
Derrière la maison.
Voilà. Oui. C'est plus facile d'élever des porcs. Exactement. Plutôt que de faire la chasse. C'est très difficile. Mm. C'est trop difficile d'aller couper des gros arbres dans la forêt. C'est plus facile de travailler dans la forêt secondaire, dans les jachères forestières, juste derrière la maison. Donc, il faut cibler ces activités. Et ces activités-là, dès lors que ces activités-là sont rentables, je crois qu'on était sur le terrain, vous avez vu les dames qui ont utilisé des variétés améliorées venir nous vendre
des tubercules
de manioc, des canards,
voilà, et des grandes tailles.
Mais, et même des boutures.
Oui,
ils viennent nous vendre des boutures pour qu'on donne à d'autres.
Il y a même un peuple autochtone qui m'a témoigné dans un village qui m'a dit que avant que les projets n'arrivent, ils allaient loin pour faire la chasse. Et depuis que les projets sont arrivés, ils ne font plus la chasse et les animaux qui étaient devenus rares dans la région, maintenant ils apparaissent, ils entendent même les bruits de ces animaux dans la nuit.
Exactement. Donc c'est un peu ça. Ils vendent le miel. Ils ont le miel. Ils vendent le miel. Vous voyez, ils vendent le manioc. Ils cultivent derrière la maison. Ils vendent le manioc. Hein? Et ils n'ont pas allé 3 kilomètres dans la forêt pour commencer à couper des gros arbres avec une hache. C'est très difficile. Donc c'est pour cette raison que on essaie de développer ces activités alternatives.
Mais le gros, vous tablez également sur l'éducation et puis la santé.
Oui, bien sûr. Si on n'a pas éduqué les enfants dans les villages, ces enfants-là vont devenir des agents de la déforestation. Parce que la seule activité qu'ils vont apprendre, c'est
la chasse, la pêche et les cultures
vivrières, c'est pour survivre. Alors que si on arrive à donner du métier à ces enfants-là, ils vont faire autre chose. Ils vont gagner beaucoup plus. Vous voyez, donc si vous allez dans les villages, ceux qui ont étudié gagnent plus que ceux qui n'ont pas étudié.
Oui.
Donc on leur donne aussi cette alternative.
Même dans le cas de la préservation, ceux qui ont étudié, ils ont des notions basiques sur la protection de la forêt et ça permet aux communautés locales de se développer également. Mais est-ce que Era Congo va s'arrêter uniquement dans les Maïndombe, professeur?
Bon, c'est une très très bonne question. Vous savez que nous avons aujourd'hui des appels de pratiquement tous les gouverneurs de province. Alors ça, je peux vous dire. Ils veulent que nous puissions aller chez eux parce que c'est une activité quand même qui a montré ses résultats. Nous sommes en train d'aller à notre première nouvelle concession sera à Businga. Donc nous sommes en train d'aller à Businga, à Bassankoussou, à Bikoro et à Bassoko. Donc ça, ce sont nos premières extensions. Évidemment, vous voyez, comme les communautés de Maïndombe ont quand même suffisamment d'argent,
oui, des ressources.
Ils ont des ressources à cause des ventes que nous avons faites. Donc, on peut utiliser les fonds provenant de Maïndombe pour investir auprès des autres communautés. Mais nous devons d'abord discuter. Donc, on va avoir une grande réunion de tous les CLD de Maïndombe pour essayer de voir s'ils sont d'accord pour que nous puissions investir en dehors du Maïndombe parce que c'est leur investissement.
Oui,
nous avons d'autres investisseurs aussi. Il y a d'autres investisseurs qui sont prêts à aller investir dans d'autres provinces.
Avant de répondre à Malonga, il y a un auditeur qui nous appelle de Bounia. Il s'agit de Justin. Bonjour.
Bonjour à l'invité.
Justin, on n'a plus assez de temps, on est droit au but. Qu'est-ce que vous avez à dire à notre invité?
Oui, j'ai un peu ignoré les thèmes, la thématique du jour, monsieur Tati, s'il vous plaît.
Nous parlons du paiement des crédits carbone, non? Que faut-il faire pour augmenter les prix des ventes de crédits carbone en RDC?
Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur Jodin. Oui, ma question, c'est de savoir, par rapport à ce projet-là, je pense que l'invité a beaucoup insisté sur d'autres provinces. Surtout de l'Ouest.
Il a oublié Ituri, c'est ça?
Oh. Il oublie Ituri, il oublie aussi la province voisine, le Nord Kivu. Monsieur Jody, le Congo, ce n'est pas seulement l'Ouest. Nous sommes ici à l'Est particulièrement. Je pense que cette histoire des produits carbone, et nous avons en tout cas, particulièrement les touristes, a toutes les potentialités d'avoir cette opportunité, ce projet. Mais je ne sais pas quelles sont les conditions que l'invité peut nous expliquer pour que la province de l'Ituri en particulier trouve aussi des opportunités de ce projet, disons. Merci, monsieur Tati.
Merci beaucoup, Justin. L'invité va vous répondre directement parce que ça, c'est une question directe. À vous la parole, allez-y.
Merci beaucoup à Justin pour la parole. Mais je vous dis ceci, nous avons parlé de tout est bon. Bassoko c'est dans l'est aussi, hein. Mais nous avons déjà un projet qui à Walikale. Nous avons un projet avec un partenaire, donc vous savez, Diana Fossey Foundation. Donc nous aidons cette ONG à pouvoir développer un projet RED dans le territoire de Walikale. Le projet est maintenant, on va l'amener en instance de validation et de vérification. Donc il y a deux jours, nous avions discuté avec des chefs qui sont venus de Bouta, je pense, de Bouta, ils sont venus. Il y en avait aussi qui sont venus de la province du Haut-Touélé. Donc il y avait des gens qui sont venus de Haut-Touélé, de Bouta et tout ça. On n'a pas encore eu des gens qui sont intéressés au niveau de l'Ituri, mais nous sommes en train de discuter avec tout le monde pour essayer de voir si l'expérience peut bénéficier à toutes les autres provinces. Donc ayez vos apaisements, ce n'est pas seulement à l'ouest, nous sommes aussi à l'est, donc à Walikale. Walikale, c'est juste au sud de là où vous êtes.
Mais on dirait que vous ne visez que Rakongo, ne visez que les zones forestières, professeur. Vous ne visez pas les volets reboisement, c'est pas dans votre vision.
Nous sommes en train de parler de ce que nous faisons pour le moment.
Pour l'instant, oui.
Dans notre budget actuel, nous allons commencer des activités de reboisement. Nous sommes en train de cibler des zones dans lesquelles nous allons commencer des activités de reboisement. Et nous avons notamment un projet dans le Grand Katanga, autour du parc national de Lupemba. Donc ça c'est un projet qui va nécessiter beaucoup de reboisement aussi. Et donc nous avons également nous avons déjà inscrit un appui à certains collègues de l'université de Lubumbashi. Donc nous allons nous déployer un peu partout et nous allons diversifier l'ensemble des activités, parce que le problème au départ, c'est comme je vous ai dit, quand nous avons commencé ce projet là en 2009, on s'était dit où est-ce que nous allons trouver des financements, et nous n'avons pas voulu aller auprès des donateurs pour avoir la main tendue et demander le financement. Mmh. Nous avons voulu monétiser les ressources que nous avons. Mmh. Et en monétisant les ressources, nous avons développé des financements qui pourront être utilisés pour diversifier nos activités. Donc nous sommes à cette étape. Et il y avait un collègue de Bandundu,
oui,
qui posait la
les
question de savoir
les agents du ministère qui n'ont pas d'appareil, voilà, d'évaluation, tout ça.
Non, nous avons la direction des inventaires et d'aménagement forestier a des unités absolument formées. Ils ont des gens formés en télédétection, en inventaire forestier et tout ça. Et il faut simplement un minimum d'encadrement pour qu'ils puissent vraiment être capables de faire le travail. Le problème, c'est que le problème de la non-visibilité, notamment de cette direction dans laquelle moi-même j'ai travaillé aussi, le problème de sa non-visibilité est dû au fait que le pays est trop grand. Vous voyez, si on essaye de faire des inventaires partout, ça va être extrêmement difficile. C'est difficile de se déployer dans l'ensemble du pays. Il faudra qu'on puisse avoir une stratégie, et je crois que c'est ce qu'on est en train de développer actuellement avec Madame la vice-première ministre. Donc, on essaie de développer une stratégie pour essayer d'avoir une bonne connaissance de la forêt congolaise d'une manière générale.
Oui,
donc,
déployer
les gens un peu partout.
Oui, nous sommes à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a les moyens de contact pour des gens, des communautés qui aimeraient entrer en contact avec Ira Congo dans le cadre des activités que vous menez sur terrain? Nous sommes à la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a des contacts?
Oui, nous sommes une société privé, mais qui est un peu public, quoi. Nous travaillons avec les communautés, donc notre numéro de téléphone, on va vous passer notre numéro de téléphone.
Une adresse mail?
Oui, l'adresse. Oui, l'adresse mail. On va développer d'ailleurs une adresse mail essentiellement pour
Requérir des suggestions, des propositions.
Oui, pour qu'il y ait des propositions, des suggestions partout. Et nous sommes prêts. Nous sommes congolais. Nous sommes congolais. Nous sommes prêts à pouvoir travailler pour développer le Congo dans son ensemble. Ce n'est pas seulement le Maïndombe. C'est le Congo. Le Congo qui est pays solution. Le Congo est une solution aux problèmes que nous avons actuellement. Je vous ai dit, quand la pollution arrive, elle est nettoyée par nos forêts.
Oui, professeur Jean-Claude Bwangoy, nous rappelons que vous êtes administrateur général de Ira Congo Wildlife Hawk Carbone, une entreprise spécialisée dans la vente des crédits carbone dans les Maïndombe. Merci d'avoir été avec nous dans Capi Service. Ce n'est pas la dernière fois, à la prochaine occasion.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.